Être artiste, pour moi, le mot être est plus important que artiste, déjà. Et ça voudrait dire, mais toute pratique confondue, tu vois, musique, danse, peinture, tout ce que tu veux, c'est un état. Pour moi, c'est un état au monde, c'est-à-dire que c'est une façon, non pas de s'intégrer, peut-être de digérer, peut-être... Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être un peu sur le côté et d'avoir un... Peut-être qu'on m'y a mise, hein, à cet endroit-là, mais le fait d'être un peu de côté, ça m'a permis de regarder, d'entendre et d'être à distance tout en étant dedans. Donc être artiste, pour moi, c'est deux choses qui se superposent, qui sont être en dehors et dedans, ce monde dans lequel on vit, et de le traduire. Donc en fait, il y a une dimension de transmission, de relais, puis c'est celui ou celle qui voit ce que les autres ne voient pas. C'est aussi avoir un statut particulier de celui qui peut dire, ou celle qui peut dire, à la place des autres. C'est pas mon banquier qui va... Peut-être que si, d'ailleurs. Il y a de la poésie partout, mais je pense que l'artiste, être artiste, c'est d'abord pouvoir dire à la place des autres. Pour les autres. Mm-hmm. Et non pas pour soi.
Vous écoutez Cube Rouge, le podcast d'entretien où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison-Rouge. Je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter? Comment vit-on de son art? Comment parvient-on à exister en tant que créatrice? L'artiste que je rencontre aujourd'hui s'appelle Myriam Mechita. L'œuvre singulière de Myriam Mechita évolue toujours d'une exposition à l'autre en fonction du lieu. Ses installations reprennent souvent des compositions similaires et des éléments récurrents qui nous invitent à poursuivre le fil d'une narration sans fin. Elle crée toujours des installations en fonction du lieu qui l'accueille, réunissant des pièces parfois de différentes périodes, mais toujours de différents médias. Dessins, vidéos, céramiques, qui ensemble laissent poindre quelques mélancolies sous le scintillement des couleurs et la vivacité du trait. Mais son travail se poursuit également au quotidien par une écriture spontanée de scènes de la vie ordinaire postées sur Facebook. Née, au fil du temps, un alphabet intime qui raconte la vie et les émotions qui la traversent, appréhende la complexité comme la fragilité de l'existence et donne corps aux violences que l'artiste perçoit dans notre société. Ainsi, avec elle, la mort, la souffrance, la douleur, la peur, nos horreurs, se trouvent confrontées au merveilleux.
Alors, tout à l'heure, tu as commencé à parler donc, du verbe « être ».
Oui.
Et « être », ça veut dire, ben, depuis le début, tu sais que tu es artiste, en fait.
Oui. Moi, en tout cas, je l'ai su comme un état bizarre. Je me sentais bizarre, je savais pas, j'avais toujours envie de dessiner sans savoir quoi dessiner. Mais je demandais à mes parents, à ma mère notamment, de me donner des sujets, parce que je ne savais pas. Et quand elle me donnait le sujet, je faisais pas ce qu'elle me demandait. Et en fait, je crois que c'était une sensation étrange d'appartenir à quelque chose qui n'était pas formulé. Et donc j'ai toujours su. Mais il y a eu un moment de révélation, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'ai pu formuler ça parce que quelque chose a été comme un déclic.
Et qu'est-ce qui a fait ce déclic alors ?
Ben, c'est tout simple, c'est une image. C'est-à-dire que j'avais des sensations, j'avais des perceptions, j'avais une impression un peu étrange. Mais je suis allée chez mon dentiste et cette histoire, je l'ai racontée plein de fois, mais elle est vraie parce que mon dentiste m'a dit que si j'avais peur, je devais regarder l'image comme si c'était l'espace de l'apaisement, tu vois, pendant que lui il faisait les soins. Et en fait, j'ai regardé, c'était la décapitation de Saint-Côme de Fra Angelico. Et là, ben, le mur s'est ouvert, quoi. C'est-à-dire que je suis passée à travers l'image, déjà, j'ai été complètement hypnotisée. Et puis, cette décapitation, j'ai vu un glaive qui se tenait en l'air. Un personnage à genoux, et puis des personnages devant qui n'avaient plus de tête. Et je trouvais ça d'une beauté extrême. Et en fait, j'ai demandé, qu'est-ce que c'est ? Il m'a dit, c'est de l'art. J'ai dit, ok, et qui c'est qui fait ça ? Il m'a dit, bah, c'est les artistes. Et quand il a dit ça, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que moi, je vais faire. Je le savais. que j'appartenais à ça et que c'était exactement ce que j'étais. Donc à partir de ce moment, j'avais 5-6 ans, je disais à tout le monde que j'étais artiste.
Voilà. Alors ce qui est quand même étrange, c'est que tu dises que quand tu regardes une décapitation, tu trouves ça très beau.
Ouais, mais ça a été en résonance avec ma propre histoire. Parce qu'en fait, moi je suis d'origine algérienne, mon père et ma mère ont été touchés entre guillemets par la guerre d'Algérie, mais plus principalement mon père, qui était enfant, et qui a vu en fait mon grand-père se faire torturer par les Français. Il a été scalpé, torturé, découpé, et à la fin, décapité. Voilà.
Devant son fils.
Devant son fils, devant sa femme, puisqu'en fait, il y avait ma grand-mère et ses 4 enfants. Voilà. Donc j'ai toujours entendu parler du corps en morceaux, de la décapitation. En plus, mon père ramassait des morceaux de corps dans la campagne, puisqu'il était berger. Et j'ai toujours entendu ça, la torture. Et je m'en faisais une image. Et en fait, quand j'ai vu cette peinture, je me suis dit que j'avais une mauvaise image. En fait, que ça me parlait directement, puisque c'est quelque chose que je connaissais, en tout cas qui était en moi de manière flottante, et puis là j'en voyais une image distincte, et en fait je trouvais ça super beau. Je me suis dit, mais je me suis trompée en fait, une décapitation c'est pas horrible, c'est super beau. Et ça a été, je pense que j'ai vu particulièrement cette peinture plus qu'une autre, parce qu'elle me parlait directement. Mmh, et je crois que vraiment, une œuvre d'art, en fait, marche comme ça.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle résonne. Ouais, exactement, c'est le bon mot. Tu vois, on l'a dit en même temps. Ça résonne. Et ça doit résonner. Mmh. Et je pense que justement, les œuvres ou les artistes... On parlait de ce qu'est un artiste tout à l'heure. C'est justement parler des autres à travers soi. Mmh. En fait, on est des passeurs de quelque chose. C'est-à-dire que même si je parle de moi, de ma tristesse, de ma joie, de mes peurs, de tout ce que tu veux... Je parle évidemment des autres. Mmh. Mmh. L'universalité est hyper importante.
Ouais.
Ouais. Mmh. Mais on ne la cherche pas, elle apparaît d'elle-même, évidemment.
Mmh. Oui, mais pour revenir donc à ton histoire personnelle, familiale, donc, c'est quand même assez surprenant que tu dises « ça résonne », donc ça m'a ouvert la voie, mais c'était extrêmement beau. Qu'est-ce qui était beau dans cette image ?
Oh là là. Qu'est-ce qui était beau ? Bon, alors déjà, Frangelico,
oui.
on va pas en parler oui. pendant des heures, mais je dirais que c'est quand même le maître des couleurs et de la forme. Qu'est-ce qui était beau ? Bah, c'était ce contraste entre l'extrême violence et le temps suspendu. Alors, c'est aussi la première fois que je me suis dit... En fait, j'ai réalisé qu'une œuvre a une force incroyable à partir du moment où elle peut arrêter le temps, déjà. Et ça, je trouve ça d'une beauté infinie. C'est une force incroyable. Qu'est-ce qui pouvait être beau ? Oh, je crois que tu sais quoi, c'est innommable, c'est-à-dire que je n'en ai pas les mots. D'ailleurs, à partir du moment où on peut formuler quelque chose, je crois que c'est qu'il échappe complètement, alors que justement, je pourrais même pas te répondre. Mm. Je dirais que c'est l'espèce de confrontation entre la violence et l'extrême sophistication de la représentation de cette violence, peut-être. Qui fait que c'était sublime, c'était au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. D'ailleurs, quand je suis allée la voir en vrai au Louvre, quand j'étais jeune, mais j'y suis allée, c'était un vrai voyage, on va dire, pas initiatique, mais en tout cas, c'était tout petit, en fait, cette peinture, alors que j'imaginais ça super grand, parce que sur le calendrier, c'était sûrement plus grand que ce qui était prévu. Et ouais, moi, j'ai un rapport à l'histoire de l'art et à la peinture qui est au-delà de la fascination, c'est quelque chose qui me traverse et que je ne peux même pas... D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'en fais pas, hein, de peinture. Je n'en fais pas parce que je pense avoir peur d'en faire. Ou en tout cas, je n'ai rien à y dire, pour l'instant, parce que c'est au-delà de la beauté. C'est quelque chose qui est... C'est comme quand tu vois... Quand j'allais chercher mon fils à la crèche, par exemple, j'ai donné un exemple, c'est que je ne voyais personne d'autre à part lui. Et ben c'est cette beauté-là. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, tu sais, tu vas tout d'un coup être sans repère particulier. Tout s'échappe. Et ben cette peinture-là, ça a été la même chose.
Et donc ce choc que tu as ressenti avec un calendrier, donc
oui, départ, un calendrier, oui.
Chez le dentiste,
mauvaise impression.
Chez le dentiste, ça signifie que dans ton entourage familial, au départ, tu n'avais pas eu cette culture de l'image.
Non, moi je viens d'un milieu très... très pauvre, on peut le dire, et je n'ai jamais croisé ni d'art. Moi, je suis une enfant de la télé, donc je regardais la télé, je regardais des séries, je regardais des émissions. Et à l'époque, tu vois, dans les années 70, 80, il n'y avait pas grand-chose, on va dire, d'artistique. Je n'ai jamais croisé d'artiste à l'école, je n'ai jamais été dans un musée, ni dans une galerie. D'ailleurs, c'est très étrange comment c'est arrivé de nulle part. C'est-à-dire que je lisais pas spécialement. Enfin, je n'avais pas de point de départ, on va dire, particulier, à part ce calendrier. Ouais, c'est pas ni arrivé par mes parents. D'ailleurs, l'éducation s'est faite à l'envers. C'est-à-dire que c'est moi qui ai apporté ça à la maison.
Mais après, donc, dans tes études, tu t'es tout de suite orientée vers l'art.
Alors, non. Enfin, oui. Enfin, c'est-à-dire que j'ai eu la chance aussi, ou la malchance, d'avoir des parents, enfin, mon père notamment, d'origine musulmane. Et comme à l'époque, en Alsace, il y avait des cours de religion obligatoires. Mais quand on est d'origine musulmane, on n'y a pas droit.
Ah oui.
Donc moi, j'étais mise sur le côté. J'étais seule dans une classe avec un jeune homme qui me gardait. Et pendant les heures où les autres allaient apprendre l'histoire de la Bible, et ben moi, je lisais des livres d'histoire de l'art. Voilà. Et j'ai lu, et lu, et lu. Et un livre en amenait un autre, une image en amenait une autre. Et j'ai fait, et j'ai parcouru l'histoire de l'art comme ça.
Et finalement, tu as découvert l'histoire de la Bible aussi.
Ah mais complètement. D'ailleurs, j'étais bien plus calée que tous les autres. Et que, parce qu'en fait, ça parle que de ça.
Que de ça.
Voilà.
Et moi, un peu de mythologie aussi.
Et un peu de mythologie, et un peu d'autres choses. Et en fait, j'ai avancé comme ça. Et j'ai regardé. Mais en fait, je cherchais ma place. Et j'ai compris qu'elle ne serait pas facile à prendre. Parce qu'en fait, il n'y avait que des livres sur les hommes. Donc, j'essayais de comprendre comment je pouvais, moi, à l'intérieur de ça, j'étais enfant, prendre une place. Et en fait, j'ai demandé, je me suis renseignée, on m'a dit qu'il fallait faire une école d'art quand on est artiste, parce que comment on fait pour être artiste? Alors là, c'est une vraie question. Donc, je rêvais de ça. Je rêvais d'aller dans une école d'art. C'était mon rêve absolu. Bon, il s'avère que le rêve s'est transformé pas en cauchemar, mais la réalité a été tout autre. Et donc, je suis rentrée aux Arts Déco, j'avais 17 ans. Voilà.
Mais tes parents, s'ils ne sont pas opposés, là, il n'y a pas de problème.
Bah, m'ont dit, clairement, bah, si tu veux faire ça, tu le fais, mais bon, ce sera... Enfin, il n'y avait aucune... Enfin, je ne sais pas si c'était possible de m'arrêter, de toute façon, j'étais déterminée. Mais quand les gens... Enfin, quand en face de toi, tu as de l'incompréhension, c'est-à-dire que je ne suis pas certaine que tout soit bien compris. Ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, ce qui est, à mon avis, très normal, parce que c'est des codes et un milieu qui est très particulier, très spécifique. Donc, on a beau dire « l'art touche tout le monde », ce n'est pas vrai, en fait, parce qu'on est dans une sorte d'entre-soi, et moi, je les ai appris, les codes, je suis rentrée. C'est ça qui est toujours un peu étrange, c'est cet équilibre entre les codes et l'intuition. Ouais. Donc, j'ai tout fait à l'intuition, comme une sauvage, mais j'y suis allée quand même. Et donc, c'était mon parcours. Mais j'étais déterminée, moi, je n'avais pas d'autre alternative. Non pas parce que je n'avais pas les capacités, parce que ce n'était pas le problème, mais que je ne voyais pas comment je pouvais faire une vie autre que celle-là.
Et quand on lit des choses sur ton travail, il y a un mot qui revient beaucoup et que tu as utilisé déjà tout à l'heure, c'est la notion de beauté. Donc, faire du beau, ça sauve le monde.
Mais absolument. Moi, je suis persuadée que c'est la beauté qui va nous sauver. Alors, bon, c'est mal barré en ce moment, mais la beauté de tout, c'est-à-dire la beauté des gestes, de l'élégance, du respect de l'autre. La beauté, c'est un... Alors moi, je ne vais pas faire de mauvaise philosophie ici, hein, parce que je ne suis pas philosophe, je suis qu'artiste. Mais oui, je reste persuadée qu'il y a... il y a une sorte de moment... C'est la différence entre les artistes et les décorateurs d'intérieur, en fait. C'est-à-dire que quand je vais dans une foire et que je vois tout ce qui est présenté, que les gens choisissent en fonction de leur salon et tout ça, je me dis qu'on n'est pas au même endroit, en fait. Et la beauté peut être dérangeante, peut être violente, peut être triste, peut être à plein d'endroits, mais je crois que c'est justement... c'est la seule, en ce qui me concerne, dans mon travail, la seule condition. Mais je ne pourrais pas t'en dire plus, parce qu'en fait, je ne suis pas philosophe et que j'imagine que... Voilà, ça parle de tellement de choses bien plus grandes que ce que c'est en soi. Je ne sais pas si ça te répond.
Si, si, très bien.
Ouais.
Et tout à l'heure, tu disais que tu avais été choquée quand tu découvrais l'histoire de l'art à travers les livres, qu'il n'y avait quasiment que des hommes.
Ah, oui.
Est-ce que toi, dans ton parcours, tu as senti une discrimination aussi, ou même dans tes études au départ, ou est-ce que tu as senti que c'était plus difficile?
Alors là, je pense qu'on en a pour 4 heures. Bah oui, ça a été... Alors, moi, je suis d'une autre génération que celle d'aujourd'hui, tu vois. Les choses avancent, changent. Aujourd'hui, il y a des choses que moi, j'ai perçues, entendues, reçues dans la tronche, qui n'existeraient plus du tout. Mmh. Et heureusement. Ouais. Alors, je dis pas que aujourd'hui la répartition des ventes d'artistes femmes est encore est déjà en équilibre, ce qui n'est pas le cas, même dans les expos, même dans les musées, tout ça. Mais quand même, on est loin de ce que j'ai vécu, mais même à l'école. Mmh. Ça, c'est encore. On pourrait faire une émission si tu veux là-dessus, mais c'était permanent. Mmh. C'est-à-dire que la légitimité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de légitimité à être là. Mmh.
Donc, le besoin de se battre tout le temps pour prouver que ta place était là.
Alors, je vais te dire, je n'ai pas eu l'impression de me battre.
Non.
Parce que... Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est un combat qui est tellement intégré que je n'y ai plus pensé du tout. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu monolithe, quoi. Hein. J'étais brutale. C'est-à-dire que en vrai, je crois que personne n'a contredit. J'étais, je pense, tellement déterminée. Que personne n'a contredit, même si je me suis pris des phrases sexistes, racistes, à gogo, hein, ça c'est sûr, mais même de la part de mes collègues artistes. Et de la même manière, quand tu veux un enfant, c'est une autre violence par-dessus, voilà. De la part des hommes et des femmes, parce qu'en fait, parce que c'est comme un ratage, tu vois, c'est-à-dire que ça veut dire que tu n'as pas de considération pour ta carrière, tu n'as pas de considération pour... Tu vois, quand on te dit, ah, vous avez fait un enfant, c'est votre plus belle œuvre. Ok, si c'est ma plus belle œuvre, ben ok, d'accord. Moi, je ne vois pas... Enfin, il y a quand même un monde entre ce qui se passe dans la vraie vie et le travail à l'atelier. Donc, moi, je crois que je ne me suis pas battue, j'ai imposé. Je ne vais pas contre les autres, parce que les autres ne m'intéressent pas, spécialement, dans ce qui, eux, pensent être une vérité pour moi. La seule vérité qui compte, c'est la mienne. Donc, je sais que j'avais des choses à faire dans ce milieu-là, de cette manière-là, et je l'ai fait, que ça plaise ou que ça plaise pas. Donc en fait, c'est pas un combat réel parce que je n'identifie pas d'ennemi et que même l'identification de ça ne m'intéresse pas. Mmh. Mais par contre, je vais être un peu brutale, on ne se met pas sur ma route, quoi. C'est-à-dire que j'ai ce que j'ai. Enfin, moi, je ne me mets pas sur la route des autres, personne ne se met sur la mienne.
Voilà, tu avances dans ton chemin.
Et oui, puis... exactement. Et après, je fais des erreurs comme tout le monde et j'ai aussi des victoires. Mmh. Mais ce n'est pas un chemin léger, c'est un chemin sur les genoux, parce qu'en fait, à tous les endroits, on te rappelle en permanence que ta légitimité n'est pas acquise, jamais. Mmh. Ni en tant que femme, ni en tant que maîtresse, ni en tant que maman, ni en tant qu'artiste, ni en tant que rien, en fait. Mmh. Voilà. Donc ça, au bout d'un moment, ça fatigue. Il y a cette fatigue-là aussi, c'est ce que moi j'ai voulu montrer dans l'exposition guerrière, femme en combat. C'est-à-dire aussi la fatigue qui peut s'associer. C'est pas parce qu'on est fort, qu'on est invincible, qu'on arrive à tenir, on va dire, son chemin tel qu'on le décide, qu'il n'y a pas derrière ça une tristesse et une fatigue à le faire. J'avoue avoir eu beaucoup de moments de fatigue qui disparaissent quand on ouvre la porte de l'atelier, on ferme la porte, on est dedans et tout redevient, tout se remet à sa place. Mais parfois, il y a une sorte d'injustice. Moi, je crois que c'est vraiment quelque chose... C'est peut-être contre ça, le combat. Mmh. C'est l'injustice permanente. C'est-à-dire à devoir faire plus que les autres pour que juste trouver la même place que les autres.
Mmh. Alors, justement, tu disais, dans l'atelier, c'est différent. Mmh. Et pourtant, ton travail revêt plusieurs formes qui font qu'il n'y a pas un atelier dans lequel tu crées. Mais c'est aussi dans la vie courante, parce que si on revient sur les médiums, les matériaux que tu utilises et la façon dont tu les utilises, il y a d'une part les dessins, d'autre part les céramiques, il y a beaucoup de vidéos et c'est conçu comme des installations complètes, mais il y a aussi ce que tu fais sur l'écriture, avec l'écriture et notamment sur Facebook. Et ça fait partie aussi de ton travail d'artiste.
Ouais, mais en fait, tu as raison, parce que quand je dis l'atelier, c'est moi.
Oui.
Et quand on disait tout à l'heure que c'est un état, que c'est un être au monde, en fait, je crois que je suis à l'atelier n'importe où.
Voilà.
Où je suis. Donc j'ai mon atelier à Berlin, je travaille à Paris ou ailleurs, d'ailleurs je m'en fiche, je travaille n'importe où. Et j'aime travailler n'importe où. Et c'est dans les déplacements notamment, d'un point à un autre, que je suis le plus efficace. Et que je peux... En fait, oui, je suis l'atelier, c'est un peu prétentieux, mais je suis l'atelier. Ce qui fait que je déplace aussi les besoins entre une sculpture, évidemment les dispositifs ne sont pas les mêmes, entre dessiner, la légèreté d'écrire sur un téléphone, dans un bus, et de le poster directement et d'avoir des réactions vivantes à ça en 2 secondes. C'est pas les mêmes... mais même si c'est le même cœur du travail, c'est pas la même façon de toucher les autres. Et ça me plaît de pouvoir être, entre guillemets, mobile ou fluide d'un espace à un autre.
C'est vraiment l'opposé, justement, de l'atelier qui est atelier, dans un endroit qui t'enferme.
Ah, complètement.
Là, au contraire, c'est l'inverse.
Mais l'atelier, il est ouvert à tout.
Oui, et surtout, il est dans ouais. ton crâne, dans ta tête.
Ah, mais complètement. D'ailleurs, je ne suis pas forcément attachée... on en parlait la dernière fois. Pour moi, l'atelier n'est pas un espace sacré. Même si je ne fais aucun studio visite, je n'aime pas ça. J'aime pas que les gens viennent chez moi. Voir, tenter de voir. Tu sais, quand les gens veulent déjouer le moment de la création, ben en fait, le moment de la création, il est permanent. Peut-être que quand j'ai acheté, fait mes courses au Monoprix avant-hier, c'était un moment de création pure. Et en fait, je n'aime pas ça. C'est comme si on galvaudait quelque chose. Alors qu'en fait, pour moi, l'atelier est un lieu de production. Principalement, mais pas un lieu de réflexion. Je ne m'y mets pas pour réfléchir. C'est-à-dire que j'y vais pour produire des choses. Ce qui fait que le moment de la réflexion peut se faire en permanence. D'ailleurs, je crois être très longue à faire flotter les choses. Et puis, quand je vais à l'atelier, je produis. C'est presque dénué de sensibilité, on va dire. Parce que je trouve ça très enfermant. Et puis, le fait d'incarner, en fait, te ramène à une lourdeur de tout. Puis, on va pas se mentir. Faire de la sculpture, c'est un bordel. C'est-à-dire que quand t'es une vieille sculpteur comme moi, tu te retrouves avec des caisses, des stockages, tout est lourd, tu dois trimballer, tu dois... Et ben en fait, ça, c'est très enfermant, c'est très lourd.
Totalement.
Voilà. Et ce qui fait que je vais en équilibre avec une écriture sur mon téléphone, ou faire une photo, ou filmer des choses avec, de manière très fluide. Sans qu'il y ait la lourdeur. Donc, ça me permet d'aller à tous les endroits.
Et d'utiliser toutes les pratiques aussi.
Oui, il n'y a pas d'entrave. Ouais.
Mais quand tu travailles pour une exposition particulière, tu aimes bien toujours voir en fonction du lieu.
Exact. Oui, je n'applique pas une chose que je fais rentrer au forcing à un endroit. Je trouve que ça ne marche pas. Donc, je vais voir le lieu, je vais voir l'espace. Et après, en fonction de l'espace, je sens et je vois les choses.
Et là, tu vas décider si tu mets une vidéo une céramique, ou si tu vas mettre plutôt des dessins.
Exactement.
Et puis très souvent, tu interviens sur le mur lui-même, ou sur le sol.
Oui, c'est ça.
Voilà, tu conçois vraiment comme une installation qui peut être éclatée dans différents médiums et différentes œuvres.
Oui, et même temporalité. Ça peut être des vieilles pièces, on va dire, avec des récentes. Il n'y a pas de linéarité, en fait. J'ai l'impression, même ma vie, elle est très chaotique. Enfin, si je peux prendre un terme, même si moi, je n'ai pas une sensation de chaos, ça peut être dans des espaces différents, des matériaux différents, des temporalités différentes. Mais ça, en fait, tout mon travail n'est qu'un seul corpus.
Bien sûr.
Et qu'il n'y a pas de début et pas de fin, j'imagine. Et qu'on peut prendre les choses à n'importe quel endroit, ce sera la même phrase.
Tu n'es pas comme beaucoup d'artistes qui travaillent par série.
Peut-être que si, quand même.
T'as quand même des thématiques.
Dans les dessins, c'est très organisé, les dessins. Il y a quand même des formats par série.
D'accord.
Plus par période, je dirais. Mais les dessins sont très... non pas des séries, mais sont des formats et des dispositifs. Tu vois, les 2 mètres par 1 m50, t'as les formats 42 par 60. Ça paraît un peu psychotique, un peu rigide, mais en fait, il y a des formats. Et j'aime bien rester dans ces formats-là, parce que à l'intérieur de l'image, du coup, je peux tout chambouler. Et c'est le cadre qui permet les glissements. À partir du moment où je change en permanence, il n'y a plus de glissement possible. Alors que si c'est ultra rigide à un endroit,
bien sûr.
On peut constater les glissements.
Ouais, c'est ce qu'on dit souvent pour un artiste, travailler avec un cadre, ça permet justement de pouvoir en sortir.
Complètement. Donc moi, je m'impose des cadres pour pouvoir montrer que je suis capable d'en sortir.
Et c'est là où se situe ta liberté d'artiste.
Ouais, mais j'aime bien l'idée de ne pas avoir d'entrave.
Bien sûr.
De ne pas avoir de limites. Et que justement, mes espaces de confort, on va dire, sont pas justement les centres, enfin si, centres d'art, musées, ça je sais faire, à force on sait faire, mais je me sens plus à ma place dans des espaces ouverts qui sont les lieux de vie.
Et justement, c'était la dernière question que j'allais te poser, c'était quel est ton rêve d'exposition, en fait, c'est justement sortir de...
Ouais, ce serait d'être... J'aurais adoré... par exemple, faire le fond d'une piscine,
ah oui.
Une piscine municipale. J'aimerais être à la bibliothèque sans qu'on me voie. J'aimerais être justement à la maternité ou dans les hôpitaux ou quand on est dans des salles en fin de vie ou même les lieux dans les hôpitaux où on accueille la famille des défunts. En fait, dans des endroits où se situe la vie elle-même. Et non pas... Moi, je me questionne toujours sur l'art dans les espaces dédiés. C'est-à-dire qu'on dédie des espaces à l'art. Et ben en fait, j'aime que ça se déplace. J'aime, quand j'attends à la mairie, tu vois, mon tour, je réfléchis, je me dis les poignées, j'aimerais bien être juste m'occuper de toutes les poignées, par exemple. Et peut-être que mon rêve, ce serait de disparaître entièrement pour que mon travail prenne entièrement la place.
Tu proposes un art qui est beaucoup plus furtif et qui permet de s'insérer dans la vie ordinaire, quotidienne, mais qui vient justement apporter, distiller des notions de poésie, de beauté.
Mais tu sais, c'est comme un éclat quand tu es quelque part et tu as juste un éclat sur un verre. Et on parlait de beauté tout à l'heure. Tu peux être... En fait, la beauté, pour moi, ce n'est pas une histoire de démonstration. Au contraire, c'est vraiment le presque rien, c'est un geste. J'avais lu un haïku japonais que je trouvais très beau, d'un enfant qui s'était suicidé et qui avait laissé un haïku à son père, et qui avait dit « Pardonnez-moi, je me souviendrai toujours du goût de la pêche que nous avons mangé ce dimanche. » Et ça, je trouve que c'est d'une beauté absolue, c'est-à-dire que c'est le presque rien... Ça peut être le goût d'une chose, le parfum, ça peut être un éclat sur une cuillère posée sur une table. Je comprends de plus en plus en vieillissant que ce n'est pas dans la démonstration qu'on prend sa place. On a bien plus de place quand on est infiniment petit, je pense.
Bien, merci beaucoup, Maria Pachita.
Merci à toi, Isabelle de Maison Rouge.
Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge, le mercredi et le samedi à 14h la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.